Salut, bonsoir, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1 Québec, en espérant que vous ayez passé un bon lundi, surtout une belle fin de semaine. Et d'ailleurs, en fin de semaine, les gars, on était gâtés, c'était la fête des pères, donc j'espère que vous avez été gâtés à la hauteur du père formidable que vous êtes depuis la naissance de vos enfants. Comme à chaque lundi, c'est le spécialiste de la justice, Maître Marc Bellemare, qui est avec nous. Monsieur Bellemare, bonsoir.
Allô, comment ça va?
Ça va très bien. Est-ce que vous avez fêté la fête des pères, Monsieur Bellemare?
Fêter, c'est un grand mot, là. J'ai eu des appels, puis des textos, puis bonne fête, papa. Puis, ben, j'ai eu ça 5 fois. Moi, j'ai fait, comme j'ai 5 enfants, mais j'ai été 5 fois félicité et choyé par des bons vœux. Mais là, on n'a pas fait un gros, gros party. C'est quand même. Écoute, hier, c'était le 16 juin. Ouais. On n'est pas loin des vacances, tout ça. Alors, tu sais, c'est. Mais en tout cas, il n'y a pas eu de barbecue, disons.
Il y en a pas eu.
L'année prochaine.
Ben, peut-être qu'un jour, vous allez le mériter. Le barbecue, ils vont vous en faire un. Mais en fin de semaine, ouais. Vous étiez dans le secteur de Montréal, c'est ça?
Oui, c'est ça. J'étais à Montréal hier pour une conférence de presse. Alors, mais il a fait très beau. Ça a été une très, très belle journée. Mais c'est sûr que, tu sais, quand tu te promènes, quand tu as affaire à aller à Montréal, tu fais Québec-Montréal, aller-retour, c'est quand même un bout. Hein. Va te dire, l'autoroute 20, là, c'est plus plate que ça sur la terre, tu sais, comme... Il n'y a pas de but, il n'y a pas de vallon, il n'y a pas de... Écoute, tu t'en vas là-dessus, puis c'est endormant au possible.
Non, ben moi, j'essaie de joindre souvent l'utile à l'agréable. Là. Quand je voyage, que ce soit en avion ou encore en auto, puis je sais que j'ai une couple d'heures à faire, je me télécharge des podcasts, j'écoute des trucs qui vont qui me plaisent, puis ou de la musique qui me plaît, puis j'écoute ça pour essayer de passer le temps. Parce qu'effectivement, Montréal-Québec aller-retour, c'est un 5 heures, là. Donc, il faut meubler le 5 heures. Puis si on reste dans notre véhicule, on fait juste attendre que le temps passe, il me semble que c'est long.
Bien, tu regardes l'autoroute des Cantons de l'Est, là. Je ne sais pas si tu l'as déjà faite, là. Montréal-Sherbrooke, là, il y a des courbes, il y a des pentes, il y a des vallons. C'est très pittoresque, c'est très, très beau. Et l'autoroute 40, un petit peu plus d'épinette, un petit peu plus vert que l'autoroute 20. Mais l'autoroute 20, écoute, c'est dur à battre en termes de... Puis là, t'essaies de rouler, mais il n'y a pas trop de police hier. C'était quand même supportable.
Bon, OK.
J'ai pas gagné de ticket.
Hier, j'ai pensé à vous. Nous autres, on est allés, hier après-midi, on est allés faire un tour du côté du Vieux-Port. La cale du Vieux-Port, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais c'est l'ancienne cour arrière du Festibiaire. Donc, on a été passer un petit moment là. Puis par la suite, j'ai été visiter les galeries d'art dans le Vieux-Québec. Puis je me suis dit, Maître Bellemare aurait aimé ça être là. Il aurait pu m'expliquer tous les tableaux que je voyais, que je comprenais pas trop. J'ai été aux galeries Beauchamp.
OK.
J'en ai fait...
Il y en a quelques-unes.
J'en ai fait quelques-unes, effectivement. Puis c'est particulier, puis je sais que vous êtes un connaisseur d'art, là, puis un collectionneur en plus. Moi, il y a des toiles que je suis capable de donner une valeur à ces toiles-là. Puis il y en a d'autres que je me dis, OK, moi, j'aurais pu faire ce type de toile-là sans aucun problème, puis j'aurais mis le nom de l'artiste, puis il n'y a personne qui se serait rendu compte de rien. C'est complexe, l'art. Quand on connaît pas ça, c'est extrêmement complexe, là.
C'est sûr, c'est un monde particulier, c'est un peu comme... Mais tous les collectionneurs développent une certaine connaissance, un œil particulier, mais ils ont fondamentalement des goûts et des intérêts, tu sais. En quelque part, moi, je peux pas contester que tu aimes tel type de toile ou telle sculpture plutôt que telle autre. C'est une question de point de vue et c'est très, très, très personnel. Mais il y a quand même un marché. Et les connaisseurs vont rechercher tel artiste de telle époque, telle série, même à l'intérieur d'une carrière d'artiste qui peut avoir duré 60 ans. Tu as des périodes, hein, tu as des séries. Il a fait des séries pendant 8 ans sur telle affaire, pendant 7 ans sur telle affaire. Puis les collectionneurs recherchent ça. Et c'est ce qui fait qu'il y a des gens qui achètent des œuvres d'art et qu'il y a un prix qui est un petit peu plus stabilisé en fonction du nombre d'œuvres qui ont été vendues. Alors, c'est pas évident, c'est pas simple, mais quand tu es tout le temps là-dedans, ça va bien. Mais quand tu n'es pas très familier avec ça, ça devient un petit peu plus compliqué de savoir est-ce que je vais payer tel prix pour telle œuvre d'art, tu sais.
Exact,
Alors,
exact. Donc,
effectivement, c'est.
j'aurais aimé hier que vous soyez à côté de moi pour m'expliquer comment tout ça fonctionne, parce que, comme je vous ai dit, t'sais, il y a des toiles que je trouve exceptionnelles. Je vois les coups de pinceau, puis il y a plusieurs matières sur cette toile-là. Puis je me dis, OK, ça, là, je pourrais mettre ça dans une maison de 15 millions de dollars, puis les gens diraient, ça vaut, la toile vaut 100 000. Mais il y en a
OK.
d'autres, c'est quelques traits, puis là, je regarde le prix à côté, 3 000 pièces. Hein? J'ai raté ma vocation à moi, mais ces gens-là ont atteint une certaine notoriété.
Mais je vais te dire une chose, tu sais, quand les gens disent, ouais, moi, je suis capable d'en faire du pareil, là, je suis capable de faire le même type de. Le même type d'œuvre d'art, ben, ce que je leur dis, fais-les donc. Fais-les donc.
Ouais, ben je savais qu'en disant ça, ça allait vous faire réagir un peu parce que je vous
Fais
avais
donc,
dit la
non, mais
même affaire.
fais-les. C'est ça, tu sais, je dis, ben, prends un pinceau,
Ouais.
prends une toile et fais l'œuvre d'art. Et dis, montre-moi que tu es capable de faire la même chose, parce que c'est pas si simple que ça, hein. Faire des traits qui ont de l'allure, l'épaisseur, les angles, c'est pas si simple que ça. Ça paraît simple quand tu le vois, quand c'est complété,
Ouais.
mais moi, je regarde les dessins que mes enfants font, puis qui ont fait toute leur vie, puis c'est pas des œuvres d'art qui pourraient être commerciables,
Mais vous allez
c'est
les
sûr.
garder toute votre vie, par exemple.
Non, je les garde parce que c'est personnel, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas nécessairement des œuvres qui vont avoir un très grand déploiement et qui vont plaire à une masse de
C'est
personnes
ça.
assez pour en faire une œuvre qui va être sur le commerce et qui va avoir de la valeur.
Mais
C'est
pour
ça la
visiter ce
différence.
genre de galerie-là, on doit être accompagné par des gens qui vont nous expliquer comment ça fonctionne. Puis il y a les employés qui sont là, qui sont capables de vous expliquer là, toute la démarche des peintres sans aucun problème. Fait que j'ai bien aimé mon après-midi, mais j'aurais aimé que vous soyez à côté de moi pour m'expliquer comment tout ça
Ben, la
fonctionne.
prochaine fois, tu m'appelles, on s'arrangera pour aller faire quelques galeries ensemble.
Parce que j'avais vu l'exposition Picasso avec ma conjointe. Puis encore là, tu
Oui.
sais, Picasso, son œuvre est exceptionnelle, mais il y a des plus petites œuvres qui sont un peu moins connues, que tu te dis, OK, là, ça, là, c'est ça. Pourquoi ça a de la notoriété? Mais c'est parce que c'est Pablo Picasso qui l'a fait. Puis il était dans un certain
Encore,
moment de sa vie.
oui.
Donc, on parle de réforme de l'IVAC ce soir, Maître Bellemare.
Ouais, la réforme de l'IVAC, beaucoup d'inquiétudes chez les victimes d'actes criminels à cause que la CAQ a voté une loi qui limite à 3 ans les indemnités de remplacement de revenus. Ça veut dire que avec la loi que le ministre Jolin Barrette a fait adopter, si tu es victime d'un acte criminel demain matin, il y a une limite de 3 ans d'indemnité. Et ça, ben, c'est une première dans l'histoire du Québec parce que jamais on a vu un gouvernement qui a limité dans un nombre d'années les compensations pour le remplacement de revenus. Là, tu vas me dire 3 ans quand même, c'est pas pire, c'est quand même un délai qui est assez appréciable. C'est vrai, la plupart des victimes d'actes criminels vont retourner travailler dans les 3 ans. Moi, j'ai beaucoup de clients même qui n'ont jamais eu de remplacement de revenus. Ils ont été battus, mais ils ont été capables de faire l'emploi parce que c'est un emploi qui était relativement léger, qui ne demandaient pas de gros déplacements, qui ne demandaient pas d'efforts physiques, ils ont arrêté quelques jours, puis ils ont repris le travail, puis etc., surtout les travailleurs autonomes. Il y a des gens qui vont arrêter de travailler pendant 4-5 mois parce qu'ils ont été victimes d'actes criminels, ils ont été blessés au dos, puis ils sont pas capables de faire des efforts physiques, donc ça va durer 5-6 mois. Il y en a d'autres qui ont des emplois un peu plus intellectuels, là. Je pense à, je sais pas moi, un informaticien, je pense à un gestionnaire dans une municipalité ou dans un hôpital, s'il y a un traumatisme crânien, puis qu'il perd conscience pendant 2 jours, peut-être qu'il va être un peu mêlé après ça, il va avoir de la misère à se concentrer, beaucoup de fatigabilité, beaucoup de problèmes à travailler avec les écrans. On appelle ça de la photophobie, là, c'est-à-dire que dès que c'est lumineux un peu, qu'il y a des reflets, il y a des maux de tête, puis il y a des problèmes qui se développent. Mais il y en a, puis ça, c'est les cas les plus graves, là, qui sont pas capables de retourner travailler après 3 ans. Et ça, c'est 10% des victimes. 10% des victimes d'actes criminels au Québec sont incapables de retourner travailler après 3 ans. Ça, là, c'est des cas lourds. Si tu regardes, par exemple, l'attentat de la mosquée, il y a un monsieur Derbali qui est célèbre maintenant, un peu tristement célèbre, qui a été agressé par Bissonnette, tiré, puis lui, il se promène en quadriporteur. On l'a vu sur quantité de photos, là.
Ouais.
Bon, c'est sûr que ce monsieur-là est capable de travailler après 3 ans. T'sais. Si tu as été victime d'une agression qu'on t'a laissé pour mort sur le bord d'un fossé, tu as été attaqué au crowbar, puis traumatisme crânien, saignement intracrânien, fracture multiple, tu ne seras pas capable de retourner travailler après 3 ans. Ça, c'est 10% des cas. Et c'est ça, hier, qu'on a fait, on a dénoncé ça. Parce qu'on demande au gouvernement de la CAQ d'arrêter, d'enlever ce délai-là pour faire en sorte, finalement, que les gens soient indemnisés en fonction de leurs problèmes particuliers, personnels, et non pas en fonction d'un délai fixe. Puis quand tu regardes la CNSST, il paye jusqu'à 68 ans. Possible. Ça ne veut pas dire que si tu as un accident de travail, tu vas être payé jusqu'à 68 ans. Ça veut dire que ça peut aller jusque-là. Le deadline, c'est 68. En 68, tu as le régime de rente qui embarque, tu as la pension fédérale qui embarque, tu as d'autres revenus qui viennent suppléer. Si tu es victime d'actes criminels, à l'âge que tu as aujourd'hui, puis dans 3 ans, tu es prêt à travailler, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et c'est pour ça qu'on a demandé au gouvernement Legault de lever ce délai-là, puis peut-être d'harmoniser, si tu veux, le régime d'IVAC avec la SAC, avec la CNESST, puis qu'au moins,
Comme
ça
les...
puisse potentiellement, pour les cas graves, aller au moins jusqu'à 68 ans.
Comme les accidentés de la route. Parce que, Maître
Mais la même
Bellemare,
chose,
ouais.
parce que c'est le même gouvernement, puis tu sais, il vote des lois, puis il s'occupe pas de savoir dans les autres catégories comment ça marche. Moi, j'ai toujours trouvé ça hallucinant. Tu sais, des polyvalentes au Québec, là, il y en a des centaines, mais ils ont tous le même programme, tu sais. En français, c'est ça, puis en mathématiques, c'est ça, tu sais, harmoniser. Tu sais, dans Gaspésie, on va instruire les gens, les jeunes, de la même manière qu'à Sainte-Julie puis à Saint-Hyacinthe. Ça, c'est correct. Mais là, tu sais, si, c'est ce que j'expliquais aux journalistes hier. Si t'es agressé par un coup de marteau sur le trottoir en avant de chez vous par des drogués qui veulent avoir ton argent, puis que tu perds conscience, ben tu vas être payé pendant un maximum de 3 ans parce que c'est un acte criminel. Mais si t'es agressé par un collègue de travail dans la shop par un coup de marteau, tu vas être CSST, tu vas être payé jusqu'à 68 ans. Puis si le gars, plutôt que de te faire ça avec un marteau, il te fait ça avec son char, tu vas être sur la sac, tu vas te payer jusqu'à 68 ans. C'est complètement idiot, complètement ridicule de mettre un délai de 3 ans alors que les autres catégories de victimes sont indemnisées jusqu'à 68 ans. Puis c'est là ce qui arrive, là, Yann, c'est que la loi de la CAQ est entrée en vigueur en 21. 3 ans, ça nous mène en octobre 24. Et là, le deadline, c'est le 14 octobre 24. Fait que là, y a quantité de victimes de criminels qui ont reçu une lettre au début de l'année qui leur dit, ben, Madame, Monsieur, vous allez être payé jusqu'au 14 octobre 2024, puis le 14 octobre 2024, c'est fini.
Imaginez-vous après
Alors
ça.
là, c'est... Non, non, mais regarde, les gens capotent, là. Ici,
Ouais.
le téléphone sonne, ça ne dérougit pas parce que les gens sont inquiets de savoir, il va arriver quoi le 15 octobre, là, je vais faire quoi pour payer mon épicerie? Moi, je suis en stress post-traumatique à côté, je ne suis pas capable de fonctionner, je dors 2 heures par nuit. Je suis sur les pilules, mon psychiatre me met en arrêt de travail, au moins encore pour un an. Qu'est-ce que je fais? Ben, je dis, appelez le ministre Jolin Barrette, puis expliquez-lui ça, parce que c'est lui qui a fait cette loi-là,
Ouais. Il y avait une
qui n'a pas
victime,
d'allure.
il y avait une victime de l'IVAC à qui j'avais jasé dans mon autre vie radio, puis elle m'avait fait réaliser plein de choses. Puis justement, elle faisait la comparaison avec les accidentés, un accidenté de la route. Elle disait, tu sais, moi, là, à chaque fois que j'explique mon problème, c'est mental, parce qu'elle était victime dans une histoire complètement atroce où elle a été touchée physiquement et psychologiquement, mais les membres de sa famille ont été tués. Et elle disait qu'à chaque fois qu'elle parlait de sa problématique, elle n'avait jamais l'impression d'être prise au sérieux, même parfois par les médecins. Mais elle disait, si je m'étais fait couper les quatre membres, ben là, les gens me regarderaient en disant, OK, oui, tu as raison, là, tu souffres, là, je vois que tu as les quatre membres amputés, puis on comprend que tu souffres. Mais elle a de l'air en forme, elle a de l'air en santé, sauf qu'elle est paralysée au niveau de la tête, elle est incapable de reprendre le travail, elle est incapable de rencontrer des personnes, elle est seule dans son appartement depuis des mois et des mois, si c'est pas des années, parce que l'histoire que je vous parle, ça date de quelques années déjà. Elle disait, c'est comme si... Parce que c'est psychologique, c'est moins pire que si j'étais quadraplégique, mettons.
Ouais.
Alors que ça ne se compare pas, la douleur ne peut pas se comparer, que ce soit une douleur mentale ou que ce soit une douleur physique, ça demeure une douleur. C'est à se demander pourquoi la Coalition Avenir Québec a décidé de mettre ça en place, un maximum de 3 ans. Hey, tes deux enfants se font tuer là, dans une histoire
Ouais, mais
atroce, puis
c'est
toi, on
ça.
dit...
Émilie Arsenault, je pense qu'elle était en onde ce matin,
À Boulevard.
chez vous,
Ouais.
était avec moi hier parce que je disais, Émilie, tu vas venir expliquer aux gens. Qu'est-ce que c'est que de trouver tes deux enfants assassinés par le père? ce qui est arrivé à Wendake le 11 octobre 2020. Et là, Émilie est encore médicamentée fortement. Deux antidépresseurs, un médicament pour dormir. Et là, elle reçoit régulièrement des courriels des libérations conditionnelles parce que l'assassin a été incarcéré. Mais là, les libérations conditionnelles, ils écrivent à tour de bras pour la tenir au courant de ce qui se passe chez l'assassin de ses deux enfants, ses deux garçons, Alex et Olivier. Et à chaque fois qu'elle reçoit des courriels, elle est chavirée. Ça, il prend une éternité à se remettre de ça parce que c'est comme si c'est un stress post-traumatique. C'est ça que ça va être particulier, c'est que quand tu reçois une nouvelle ou quand tu es confronté à une situation qui te rappelle l'événement, mais c'est comme si l'événement est arrivé hier. Les symptômes sont très forts, beaucoup d'anxiété, des palpitations, des sueurs. C'est comme si ça venait d'arriver. Quand les deux enfants ont été tués, les policiers sont venus sonner chez elle. Il n'y a plus de sonnette chez elle aujourd'hui. Elle a déconnecté la sonnette. Parce que quand ça sonne, elle vient tout croche. Des détails, mais les gens vont dire, oui, mais là, après 3 ans, on se remet de ça, puis c'est ci, puis c'est ça, mais la réalité, c'est pas si simple que ça. Et c'est sûr que c'est difficile, tu as raison, c'est difficile de transmettre, de communiquer, de convaincre les gens de la réalité. Puis on parle de santé mentale à tour de bras, c'est à grosse mode. Hein? Tu entends ça, ça parle de santé mentale. Là, quand tu as un capoté qui tue son voisin parce qu'il est complètement psychotique, on dit, bien là, il faudra avoir des soins pour s'occuper de nos malades mentaux parce qu'ils sont dangereux, puis c'est puis ça. Mais la santé mentale, il y a des gens qui sont très malades, très souffrants, puis qui n'iront pas tuer le voisin. Mais cette souffrance-là, ils vont la garder chez elles. Puis quand c'est le temps de faire un travail, ça devient compliqué. Comme Émilie Arsenault, elle travaillait dans le CPE de Wendake. C'est quoi un CPE? C'est une garderie. Il y a des enfants. Ces deux enfants étaient là, dans la garderie. Ils étaient clients à la garderie. Elle travaillait là, mais ses deux enfants étaient aussi là, avec elle. Alors là, retourner à la garderie, voir des enfants, pour elle, c'est un revécu. C'est un flashback, tout le temps. Alors, il faudrait l'envoyer dans un autre domaine, il faudrait l'aider à se recycler dans quelque chose. C'est pas qu'elle veut pas, mais ça devient compliqué. Et là, s'ajoute à ça le stress d'être coupé le 14 octobre prochain. Alors, je ne sais pas ce que le gouvernement va faire. Moi, je trouve que ça n'a pas de maudit bon sens. Ils ont adopté une réforme pour les victimes d'actes criminels. Ils ont amené quelques aménagements, quelques améliorations, comme donner des soins psychologiques à plus de monde qu'avant. Mais en même temps, ils coupent à 3 ans. Alors, il est où le deal, là? Tu déshabilles Paul pour habiller Pierre. On prend de l'argent pour mettre plus de traitements psychologiques, mais on coupe le salaire après 3 ans. Je ne sais pas si tu le sais, mais par rapport à l'ancienne loi qui prévoyait une indemnisation de remplacement de revenus tant et aussi longtemps que l'incapacité de travailler demeurait, ça représente des centaines de millions d'économies. Là. Et ils ne viendront pas nous dire que c'est une réforme à coût nul. C'est une réforme qui représente des pertes significatives pour les victimes de criminels.
Ouais.
Alors, ça veut dire que si demain matin, tu es victime d'une agression criminelle solide, tu te fais battre là par je ne sais pas qui, c'est pas au travail, c'est pas sur la route, tu vas être sur IVAC. Mais dans 3 ans, tu vas recevoir une lettre qui va dire « c'est terminé, M. Marceau, organisez-vous ». Tu sais, il n'a pas de programme, c'est le bien-être social qui t'attend. Alors, on en est rendu là.
C'est la tristesse et la pauvreté.
C'est une drôle de réforme.
Oui, c'est la tristesse et la pauvreté. Est-ce que Simon-Jolin Barrette a réagi à votre sortie hier?
Bien, ça fait quelques fois qu'on le sollicite, hein, parce que moi, d'abord, quand cette loi-là a été, quand cette réforme-là a été annoncée en 2021, j'ai été invité par le ministre à présenter mes commentaires. Et lui, il disait qu'il allait mettre des centaines de millions de plus dans la réforme. J'ai dit, c'est pas vrai. Je ne sais pas qui c'est qui fait le calcul chez vous. Là. J'ai dit, à partir du moment où tu dis que le monde passe d'une indemnisation à vie à 3 ans, expliquez-moi comment on peut penser que ça va coûter plus cher.
Ouais.
C'est complètement ridicule. Alors, ça va coûter moins cher au gouvernement. Dites-le franchement. Dites aux victimes, on vous coupe après 3 ans parce qu'on veut sauver de l'argent. Ça se fait. Il y a des gouvernements qui ont le courage de le dire. Arrêtez de dire que vous mettez plus d'argent dans une réforme qui coûte moins cher. Là, il n'était pas content. Ça a brassé pas mal hein, en commission parlementaire. Moi, je lui ai dit dès le début que ça n'avait pas d'allure. Aujourd'hui, on voit la conséquence parce que ce 3 ans-là, bien, comme la réforme est en vigueur depuis octobre 2021, les indemnités se terminent en 2024. Puis là, on est face à un mur.
Ouais.
Puis là, ils vont avoir un automne assez hot. Là, je te promets, on va faire des manifestations. on va faire des sorties publiques, puis on va au moins dire à la population que ce gouvernement-là n'est pas ouvert aux intérêts des victimes de criminels au Québec, contrairement à ce qu'il laisse croire sur toutes les tribunes.
Effectivement, puis on va être de votre côté pour mener le combat contre cette décision-là d'abolir, de mettre 3 ans pour ce qui est des victimes pour être indemnisées par l'IVAC. Ça n'a pas de maudit bon sens, puis Boulevard serait probablement très fier d'embarquer là-dedans. En tout cas, si moi, c'est sûr, j'embarque, je peux m'engager pour les réseaux sociaux puis pour mon émission. Puis si Boulevard va embarquer dans la danse, ben, on embarquera pour faire connaître justement la mauvaise décision de Simon Jolin Barrette. Je me posais la question, avant, est-ce que c'était le psychologue ou le psychiatre qui pouvait remettre la victime sur le marché du travail?
Bien, oui. La plupart des victimes sont traumatisées parce que c'est des agressions. Quand il y a 3-4 bandits qui rentrent chez vous avec des battes de baseball à 3 heures du matin, qui violent ta femme, puis qui t'assomment, puis qui te font tout un tabac, tu vas avoir un stress post-traumatique parce que tu vas capoter, tu vas barrer tes portes, tu vas avoir peur que ça recommence. Tu vas te demander s'ils reviendront pas ou si c'est pas des gangs de rue qui vont te faire la peau. Mais tu vas avoir aussi des blessures physiques. Puis ça, il y a toutes sortes de choses. J'ai eu des cas, moi, le gars, il a tiré sa femme en bas de l'escalier, a déboulé 14 marches, 2 fractures des hanches, fracture des chevilles, fracture cervicale, traumatisme crânien, un œil en moins puis des vertiges. Alors ça, c'est le topo. Alors, la plupart du temps, il y a beaucoup de gens aussi, les agressions sexuelles, par exemple, il n'y a pas de blessures physiques, c'est des blessures psychologiques. Un viol, là, c'est des blessures psychologiques la plupart du temps. Là, c'est psychiatre, psychothérapeute, psychologue qui va gérer ça. Mais des fois, il y a du psychologique et il y a du physique. Puis des fois, il y a du physique, mais il y a rarement du physique sans qu'il y ait du psychologique, compte tenu que c'est des crimes contre la personne. Mais c'est des professionnels de la santé, comme dans tous les régimes d'assurance, qui remplissent les formulaires et qui disent « voici les diagnostics, voici les séquelles de l'accident, voici les conséquences en termes de travail, voici l'emploi dont on parle », parce que, comme je te disais, selon que tu colles des timbres dans ta job ou que tu lèves des chevaux, ben là, ça va, tu peux avoir une incapacité pour un emploi sans que ce soit une incapacité pour un autre qui sera plus léger. Mais c'est des professionnels de la santé, des experts, finalement, qui déterminent les incapacités au fil du temps.
Maître Bellemare, est-ce que vous avez parlé avec Pierre-Hugues Boisvenu?
Oui, il était là hier. On était ensemble. Boisvenu était là. Émile Arsenault était là. Il y avait Sophie Mongeon, qui est une avocate de Montréal, un peu comme moi, qui fait beaucoup de travail auprès des victimes. Moi, j'étais là. Et il y avait aussi l'association des familles personnes assassinées ou disparues, la FAD, qui est une association importante à Montréal. Qui a été créé par Pierre-Hugues Boisvenu dans les années 2003-2004. Alors, oui, il y avait du monde. La salle était pleine et les victimes sont mobilisées. Et il y a une page Facebook qui s'appelle « Victimes abandonnées par IVAC ». Alors, s'il y a des auditeurs aujourd'hui qui sont visés par ce problème-là, ils peuvent aller sur la page Facebook « Victimes abandonnées par IVAC ». Il y a de plus en plus de monde là-dessus parce qu'on veut que les victimes se sentent solidarisées, se sentent soutenus, puis qu'il y ait une espèce de point de chute là, de toutes les revendications pour qu'on puisse créer une espèce de masse critique là, pour pouvoir avoir non seulement les aider, mais avoir un certain impact auprès de M. Legault.
Pour ce qui est des victimes, Maître Bellemare, je me demandais, bon, il y a la cour criminelle, bien entendu, qui va régler le cas de l'agresseur, mais est-ce que la victime peut poursuivre au civil son agresseur? Par exemple, dans le cas d'une agression sexuelle, est-ce que la victime pourrait poursuivre au civil pour essayer de compenser un peu le manque à gagner, exemple, comme l'IVAC qui vient de dire à partir de 3 ans, c'est fini? Est-ce qu'on peut y aller au civil avec ça?
Oui. Contrairement à la SAC qui, elle, empêche tous les recours civils de la part des victimes, l'IVAC permet, la loi sur l'IVAC permet de poursuivre au civil. Ça veut dire, tu peux avoir une indemnité pour l'IVAC qui paye 90 % du revenu pendant 3 ans maximum, mais si, par exemple, ton salaire, là, c'est 92 ou 94 000 le maximum brut au niveau de l'IVAC. Mais si ton salaire, exemple, est à 200 000, ben tu peux aller, ou ton incapacité va au-delà de 3 ans, tu peux poursuivre pour l'excédent, c'est-à-dire ce qui n'est pas payé par l'IVAC. C'est un recours civil. Et même aujourd'hui, depuis juin 2020, Il n'y a plus de délai pour poursuivre dans les cas d'agression sexuelle ou dans les cas d'abus sur l'enfance. Si tu as été abusé en 1970 par des voisins, par des parents ou par des tiers, ou par des beaux-pères ou peu importe, tu peux poursuivre cette personne-là sans limite de temps. C'est sûr que ça va être difficile de faire la preuve parce que le temps file, puis les témoins disparaissent, puis le souvenir est moins bon quand ça fait 40 ans, 50 ans, mais tu peux poursuivre. Les agressions sexuelles, tu peux, mais tu peux pas poursuivre pour tous les actes criminels. Par exemple, si tu as été victime de voies de fait, si il y a 40 ans, on t'a donné un coup de poing sur la tête ou on t'a battu, mais que c'est pas sexuel, puis c'était pas un enfant, mais là, il y a un délai maximum de poursuite qui est de 3 ans. Le délai régulier du Code civil, c'est 3 ans.
OK.
Alors, tu peux poursuivre selon le type de crime, agression sexuelle, abus dans l'enfance, il n'y a pas de limite de temps. Pour les autres, il y a un délai
Puis est-ce que ça
au
prend
civil.
absolument une condamnation au criminel pour poursuivre par la suite? Non.
Non. Non, tu peux avoir même un acquittement au criminel, mais avoir une cause civile qui a de l'allure, parce qu'au civil, c'est un procès privé, c'est toi contre l'agresseur. Et à ce moment-là, la règle de condamnation, c'est la prépondérance de preuves. C'est 50% plus 1. Si tu peux convaincre le juge sans être convaincu catégoriquement que ça s'est passé comme ça, que ça s'est probablement passé comme ça, il va te donner raison. S'il croit ton témoignage comme victime, même si l'agresseur s'en défend, s'il pense que toi, tu as raison, il va te donner raison en autant que tu as une probabilité à 50% plus 1, alors qu'en droit criminel, pour obtenir une condamnation, c'est une preuve hors de tout doute, c'est 99% des probabilités. Fait qu'il y a des gens qui vont réussir en droit civil, même s'il y a un acquittement au criminel. Je pense que Gilbert Rozon a été acquitté au criminel, mais il est visé par des recours collectifs et des poursuites civiles qui pourraient réussir de la même manière qu'O.J. Simpson aux États-Unis, il y a 40 ans, ou je ne sais pas à peu près, là, a été acquitté au criminel, mais condamné pour des millions de dollars au civil. Alors, le civil, la règle, le niveau de preuve est moins exigeant qu'au criminel. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de victimes qui sont de criminels qui sont condamnés, d'agresseurs qui sont condamnés même s'ils ont été acquittés ou qui n'ont pas fait l'objet d'accusations au niveau criminel.
Et est-ce qu'on peut aller aux petites créances avec ça ou ben vous conseilleriez
Sûr.
pas ça? Ah oui.
Ah oui, tu peux aller aux petites créances, mais sûr, tu peux. Ça m'est arrivé, moi, de recommander à des victimes. Par exemple, si tu as été agressé sexuellement dans les années 80, puis que IVAC te paye une rente de 600 piastres par mois et que tu penses que tu peux avoir un certain montant en plus parce que l'agression a été volontaire, préméditée, que tes droits fondamentaux ont été affectés, ton droit à la dignité, ton droit à l'honneur, ton droit au respect de ta personne, tu peux poursuivre aux petites créances, absolument, ça se fait, jusqu'à 15 000 $. Et je connais des gens qui l'ont obtenu et qui ont exercé ce recours-là. C'est moins coûteux, tu n'as pas d'avocat, ni de ton bord, ni du bord de l'agresseur. C'est le juge qui gère toute la grosse garderie. Là, c'est lui qui dit, c'est toi qui parles, c'est toi qui parles pas. Puis c'est le juge qui prend la décision au bout de la ligne. C'est quand même. Petite créance, c'est quand même, Yannick, un tribunal de qualité, parce que c'est des juges de la Cour du Québec qui entendent la cause. Alors, il n'y a pas de cour des petites créances, c'est la division des petites créances de la Cour du Québec, Chambre civile. C'est qu'entre 0 et 15 000, il n'y a pas d'avocat ni d'un bord ni de l'autre. C'est supposé être plus rapide. Alors que si tu vas au-delà de 15 000, là, il y a des avocats généralement dans les deux.
Puis, mais en même temps, j'aurais peur, advenant le cas où je suis une victime, là, j'aurais peur de me ramasser devant la cour des petites créances puis pas avoir d'informations sur ce qui va se passer. C'est quoi les questions qui vont m'être posées? C'est quoi les preuves que je dois déposer pour quelque chose qui s'est passé dans les années 80-90? On dirait que dans ma tête, c'est je préférerais être accompagné par un avocat pour ce genre de situation-là, parce qu'on se lance un peu dans le vide quand on va aux petites créances, là. Quand c'est pour, je ne sais pas moi, une clôture, bon, ça peut être correct, là. On a des photos de la dite clôture, le terrain, les limitations du terrain et tout ça. Mais dans le cas d'une agression sexuelle, on dirait que je sais pas, je serais porté à aller voir un avocat avant pour lui demander ça va être quoi le processus, puis qu'est-ce qui va se passer, là.
Oui, c'est sûr. Il y a toujours un peu d'incertitude. Des fois, il peut y en avoir plus avec des avocats. Parce que si toi, tu es un avocat, de l'autre bord, on va en avoir un. Puis ça, tu vas peut-être te faire brosser un peu. Puis tu vas peut-être trouver ça moins facile. Parce que moi, je connais beaucoup de gens qui sont allés aux petites créances, qui ont été très bien reçus, très bien considérés. Parce que le juge est là, puis il ne laissera pas aller les pires abus. Il va quand même dire, écoutez, monsieur, cette question-là, je ne l'accepte pas. Là, vous allez trop loin. Là, vous êtes en train d'argumenter avec le témoin. Là, vous êtes, vous employez des propos ou des tactiques qui ne sont pas correctes. Non, les juges de la Cour du Québec sont des avocats, au moins qui ont 10 ans de pratique avant d'être nommés. Ils connaissent le tabac, ils savent comment ça marche. Ils sont spécialisés en matière civile, en matière jeunesse, en matière criminelle. C'est un excellent tribunal. Et moi, je ne serais pas gêné de recommander à un client de réduire sa réclamation à 15 000 $ pour pouvoir aller aux petites créances. J'ai souvent des gens qui viennent me voir ici qui ont une réclamation de 22 000, 18 000. J'écoute, baisse ça à 15 000, va aux petites créances, là. C'est pas compliqué, tu vas payer peut-être 150-200 pièces de frais. Puis la partie qui perd, paye les frais de l'autre. Mais sinon, si c'est un avocat que tu mets là-dedans, attache ta tuque, ça va coûter des sous. Puis tu peux mettre facilement 5-10 000 $ dans une cause sans avoir la garantie de réussir. Fait que non, je suis un pro-petite créance dans la mesure où ça relève du... Parce que quand tu vas aux petites créances, il y a un greffier qui vérifie ta procédure. Il faut que tu envoies une mise en demeure. Ça, on peut le faire comme avocat. Il y a des gens qui viennent me voir comme bon, Marc Fedon, une mise en demeure. Donc, je fais une lettre de la bonne manière, en citant les bons articles, en disant voici ce qu'on réclame. Et là, si tu n'as pas de nouvelles, tu vas aller au bureau des petites créances au palais de justice. Donc, il s'en va là avec sa lettre. Les pièces, donc un contrat, un chèque qui rebondit, un texto, on imprime ça, on met ça dans la réclamation, tout ce qui est pertinent dans la mise en demeure. Puis le greffier des petites créances, lui, va vérifier si la mise en demeure est conforme, si les dates sont bonnes, si tu es dans le bon délai pour poursuivre. Puis si tout est correct, il va enregistrer ton dossier. Et après ça, c'est un juge qui va prendre la relève. Alors là, t'es quand même coaché, là. Il y a quand même du monde qui s'occupe de ton affaire. Puis c'est pas le free-for-all, là, que t'arrives avec n'importe quel papier, puis tu te mets à crier, puis ouais, pour plus faire la poche, là. Il y a quand même des règles à respecter. Et je pense que la plupart des gens qui vont petite créance, ils ne gagnent pas tous, mais la plupart des gens qui ont vécu l'expérience ont été satisfaits de la façon dont ça s'est déroulé.
OK. Puis le délai d'attente aux petites créances, c'est de 6 mois à 1 an et demi, admettons?
Ah oui, c'est long, ça n'a pas de bon sens. Okay. C'est long, c'est des années, là.
Ah,
écoute,
c'est des années?
Écoute, au début, écoute, les petites créances, ça relève de... C'est Jérôme Charquette qui était ministre de la Justice. On est dans les années Bourassa. Des années 70. Là. Ça fait longtemps que ça existe. Ça fait 50 ans que ça existe. Et à l'époque, je pense que ça avait commencé à 500$ ou 300$. Ça a monté à 1000. Après ça, 3000. Ça a été longtemps à 3000. Après ça, ben là, c'est rendu à 15 000. Ça va peut-être monter éventuellement. Je m'attends à ce que ça monte à un moment donné. Mais ça fait longtemps que ça existe. Mais c'est quand même une nécessité parce que, écoute, avant ça, tu étais obligé de prendre un avocat pour toutes les poursuites, même des poursuites pour des sommes de 2-3 000 piastres, avec quasiment pas d'allure. Alors, les gens décidaient d'assumer leurs pertes plutôt que d'aller en justice. Alors, c'est pour ça que c'est à ce moment-là que Jérôme Choquette, ministre de la Justice, a décidé de créer la division des petites créances. Et c'est un excellent moyen d'obtenir justice pour des sommes modestes, qui ne justifie pas d'ouvrir la grande cour avec les toges et les procès et les procédures à plus finir.
Ce soir, on est avec Maître Marc Bellemare pour des dossiers de SAAC, d'IVAC, de CNESST. Vous voulez des réponses à vos questions, c'est bellemareavocat.ca. On va faire une... Maître Bellemare est avec nous ce soir. Maître Bellemare, est-ce que vous avez l'air climatisé demain parce que les températures chaudes s'en viennent pour les prochains jours? Juste demain, je regardais tout à l'heure, la température ressentie, ça pourrait être un 42 avec l'humidité, là, 42 comme température ressentie. Ce sera pas frette, on va dire ça comme ça. Puis pour les gens qui travaillent à l'extérieur, trouvez-vous de l'ombre parce que ça va être une journée qui va être très pénible. J'ai une pensée pour les gars qui font de la toiture. J'ai une pensée pour les gars qui font de l'asphalte. Les gens qui travaillent dans les cuisines, eux, ils ont pas d'air climatisé. Je sais pas comment ils vont passer au travers, mais ils vont passer au travers.
Oui, il va faire chaud, puis c'est important de bien assurer sa sécurité pour les travailleurs à l'extérieur. Puis je te raconte une histoire vécue dans les années 80. un jeune homme qui s'appelle Eric Hort, H-O-R-T-H, que je n'ai pas connu. J'ai connu sa mère parce que le jeune homme est mort à l'âge de 17 ans. Il étudie en criminologie à l'Université Laval. Il a décidé de s'engager pour la compagnie Canadien Pacifique. Anciennement, c'était l'équivalent de Dunter ou de Price. C'est une grande compagnie forestière. Puis eux, ils faisaient du reboisement dans les forêts, dans le bout de la Tuque. Et mon Éric, lui, il faisait beaucoup d'argent avec ça parce qu'il était payé au nombre d'arbres plantés. Et à un moment donné, il a pogné un coup de chaleur. Parce que il avait pas le droit de boire de l'eau, de se baigner, etc. Donc, il faisait très chaud. Et là, il a attrapé un coup de soleil. On appelle ça une insolation. Et ça a été considéré comme un accident de travail parce que c'est survenu au travail. C'est pas un événement soudain, mais avec le temps, il a comme eu trop de chaleur dans le corps. Et là, je parle aux travailleurs qui sont à l'extérieur, qui travaillent, qui font des toitures, là. Et qui sont dans les champs, là, où il n'y a pas beaucoup de ventilation, pas beaucoup de vent, pas beaucoup pas beaucoup de déplacement d'air, soyez prudents. Et si vous êtes mal, si vous avez des nausées, si vous avez des maux de tête, c'est le temps d'arrêter, d'aller chercher de l'ombre, parce que l'histoire d'Eric Hort, c'est une histoire qui s'est répétée au Québec. À chaque année, il y a des insolations. Il y a des travailleurs qui subissent des blessures importantes. Des fois, il y en a qui en meurent. Alors, ça existe. C'est pas juste dans les livres de médecine.
J'avais pas pensé aux cueilleurs de fruits à l'île d'Orléans. Je veux dire, ces gars-là sont dans les champs pendant des heures et des heures. La CNSST doit regarder un peu ce qui se passe côté météo puis se poser certaines questions. Là. Je veux dire, un chantier
Mais
de construction.
Suite au décès d'Éric, parce qu'il y avait eu une enquête du coroner qui avait été très courue à la fin des années 80,
ouais.
Il y a eu une modification importante de toute la réglementation en matière de reboisement, travailleurs forestiers, travailleurs agricoles. Aujourd'hui, c'est mieux que c'était. Mais il reste que le boss, lui, même à 40 degrés, il veut de la production. Tu ramasses des fraises, il en veut des fraises. Tu ramasses des patates, il en veut des patates. Tu coupes des arbres, il veut couper des arbres. Tu plantes des arbres, il veut en planter. Monsieur Hort, là, il plantait un arbre aux 17 secondes. Il plantait des arbres au pas d'un homme. Comprends-tu? Il y avait une espèce de tablette là, avec
Ouais.
des petits arbres, là. Il marchait au pas d'un homme, puis il plantait ça. Il se penchait aux 17 secondes pour rentrer un petit arbre dans le sol. Il y a des techniques à l'extérieur, en foresterie, puis tout
Ouais.
ça, là. Tu sais, nous autres, on connaît pas ça, mais les jeunes sont entraînés, les travailleurs forestiers, agricoles, sont entraînés à produire. Et moi, quand je vois des températures très élevées comme ça, je pense toujours à cet événement-là, puis je me dis, chaque année, il arrive des drames. Alors, ça ne veut pas dire de ne pas travailler, mais ça veut dire que si vous avez des malaises, attendez pas de trop de le dire, parce que les insolations, c'est sournois. Hein? À un moment donné, tu commences à être étourdi, puis là, tu bois de l'eau, puis tu commences à mal filer, puis des fois, ça peut être irréversible.
Ben,
Ça peut culminer rapidement.
C'est de surveiller ses symptômes. Je pensais aux enfants qui étaient à l'école aussi. Puis les gens qui sont dans les foyers de personnes âgées ou encore les hôpitaux, dans les endroits où il n'y a pas toujours de l'air climatisé. Je regardais la citation de Bernard Drinville aujourd'hui en disant, ben, si les jeunes n'y ont pas d'air climatisé, ben, c'est permis d'aller chercher de l'air climatisé puis ramener ça en classe. T'sais. C'est tellement être loin de la réalité. Pour moi, c'est important, en étant dans les médias, de garder un certain contact avec les individus qui font divers métiers. Puis j'ai beaucoup d'enseignants dans mes contacts, Maître Bellemare. Puis juste de poser l'air climatisé dans une classe, là, ça peut prendre des mois et des mois avant que ce soit accepté. Parce que si vous branchez ça directement dans le mur, ça se peut que ça ait un impact. C'est pas toutes les écoles qui sont des écoles nouvelles. Il y en a que c'est des écoles qui ont été bâties dans les années 60-70. Si vous branchez l'air climatisé dans le mur, vous faites sauter le panneau électrique, on n'est pas plus avancé. Donc, il y a une interdiction pour certains professeurs de mettre des airs climatisés dans les classes tant aussi longtemps que ce ne sera pas accepté par les fameux par les fameux comités en haut. Et Drinville dit ça aujourd'hui. Ben, si les élèves ont chaud, juste à aller chercher des airs climatisés, c'est de ne pas connaître la réalité du terrain, tu sais, parce qu'un professeur ne peut pas prendre cette décision-là pour demain matin, ce sera impossible. Donc, est-ce qu'il y a des profs qui vont peut-être être un peu plus lousses au niveau de l'école demain? Ils vont-tu essayer de, je sais pas moi, d'aller à la piscine demain, si c'est possible? Ils vont-tu essayer d'être à l'ombre, d'avoir un certain courant d'air? Ils vont-tu mettre des fans? Je le sais pas. Mais ce que Drainville a dit ce matin, je me dis, mais à quel point il est déconnecté de la réalité avec ses professeurs. C'est quand même un ministre de l'Éducation. Il devrait être très proche de ses professeurs. Puis les professeurs peuvent pas acheter des airs climatisés. Le budget, il est là, mais ils peuvent pas brancher ça dans le mur. T'sais, 30 airs climatisés, là. Qu'est-ce que vous pensez que ça peut faire dans une école la première journée? Ça va tout faire péter le système électrique, là.
Mais tu remarqueras qu'aujourd'hui, là, dans l'actualité, il n'y a pas grand monde qui creuse. Hein. Le ministre, il parle des climatiseurs, on en parle. Le troisième lien, on en parle. Il y a des dossiers qui sont un peu plus tenaces, qui reviennent régulièrement, mais tu sais, il y a des gens au gouvernement qui passent leur journée, puis presque leur nuit, à imaginer un sujet qui va faire l'actualité. Alors là, Drainville, lui, il ne s'est pas levé un matin et il a dit ça de même, là. Il y a quelqu'un qui a dit, il faut que vous parliez des climatiseurs, monsieur le ministre, parce que là, dans les écoles, ça va être compliqué, parce que là, les jeunes, qu'est-ce qui va arriver? Puis là, il faut que vous montiez une préoccupation par rapport aux jeunes. Fait que Drainville, il sort des ventilateurs. Tu sais. Lui, c'est son idée. Mais,
ben, des ventilateurs, c'est correct, mais l'air climatisé, les profs peuvent pas poser ça sans demander de permission. Puis là, ben, le directeur d'école ne peut pas donner cette permission-là. Il faut qu'il envoie ça au comité. Puis là, ils vont analyser si l'électricité, c'est correct. Où est-ce qu'ils vont mettre ça? Sur quelle fenêtre qu'ils vont mettre ça? Tout ça, c'est normé, ça, là. Ils peuvent pas poser les airs climatisés de même.
Ben oui, c'est un problème qui revient chaque année, Yannick, en plus. Là,
exact.
Tu sais, c'est un peu comme la ministre Guilbeault en avait déjà parlé. Qui est à Montréal, qui dit on va refaire toutes les modalités pour la sécurité routière autour des écoles, on va augmenter les amendes, on va ci, on va ça. Ben oui, il y a une petite fille qui est morte, il y avait 7 ans, qui a été frappée par un cabochon avec son gros pick-up, là, qui n'a pas respecté les limites de vitesse. La ministre débarque, puis on va faire ça, on va faire ça. Est-ce qu'aujourd'hui c'est en vigueur? Certainement pas. Alors Drainville, lui, il parle des climatiseurs dans les écoles. C'est pas au mois de juin, quand on annonce 40 degrés, qu'il est temps de parler de ça. Exact. Au mois de mars, quand la neige fond, il dit, bien là, voici, notre gouvernement préventif a mis sur pied une politique dans toutes les écoles. On va doter les écoles de climatiseurs pour s'assurer que la température est acceptable pour que nos jeunes puissent étudier en toute sécurité. C'est pas ça. Il arrive le 17 juin, puis il dit, là, on va mettre les professeurs, vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça. C'est complètement ridicule. Ça montre que finalement, dans le deuxième plus grand ministère du Québec, ministère de l'Éducation après la Santé, il n'y a pas de continuité. Le ministre se lève à un moment donné, puis il lâche ça pour montrer qu'il s'intéresse au sort des élèves qui ont chaud. Moi, je trouve que c'est ridicule, parce que c'est pas... Tout le monde a compris, ou à peu près, que c'est... Dans une semaine, on n'en parlera plus. Puis le ministre va pouvoir dire, bien, j'ai fait ci, j'ai fait ça, puis je me suis intéressé au sort des élèves.
Voilà. Ah, je vous dis. Maître Bellemare...
Ça s'appelle la politique.
Exact. Maître Bellemare, en fin d'émission, on parle de la responsabilité criminelle qui est en examen. On parle du dossier d'un tueur en série qui est en cours actuellement.
Oui, dans l'Ouest canadien, c'est un homme qui est accusé d'avoir tué 4 Autochtones. À 4 moments différents. C'est pas un meurtre multiple. Là. Il y en a tué une, il y en a tué deux, il y en a tué trois, il y en a tué 4. Il s'appelle Skibinski, même si son nom ne s'écrit pas comme ça, c'est Jérémy Skibinski. Et au Manitoba, là, c'est la grosse cause. C'est la grosse affaire. Magnota.
Luca Rocco Magnota.
Oui, c'est ça, qui démembrait son copain là, asiatique. Là. Mais lui, c'est un espèce de fou comme ça, là. Et là, imagine-toi qu'il plaide la non-responsabilité criminelle. Et moi, j'ai été appelé à commenter cette affaire-là. Puis ce que j'ai dit aux journalistes, c'est que au Canada, là, la couronne doit prouver hors de tout doute que tu es coupable. Mais si toi, tu invoques la non-responsabilité criminelle parce que tu étais complètement capoté au moment où les gestes ont été commis, puis donc tu n'étais pas conscient de ce que tu faisais, c'est pas hors de tout doute, c'est probabilité. Alors, la couronne, elle a un fardeau de preuve 99 % hors de tout doute. Alors que lui, il doit prouver sa non-responsabilité criminelle en probabilité, donc 50 % plus 1. Je ne comprends pas, mais pourquoi c'est pas hors de tout doute aussi pour lui?
Ouais,
parce que, et finalement, il bénéficie d'un avantage très sérieux sur le fardeau de preuve qui est imputable à la couronne. Mais là, ce que ça met en évidence, puis moi, je pense pas que ça marche, puis je pense pas qu'il convainque le jury de ça. Mais parce que c'est 4 crimes. Alors, tu sais, t'es obligé de prouver ou bien qu'à chaque fois que tu commettais tes crimes, tu étais complètement sauté, ou bien que tu es complètement sauté tout le temps, hein, entre le premier et le dernier crime, parce qu'il y a un modus operandi. Tuer quelqu'un, c'est pas simple. Tu es obligé de t'attaquer à la personne, de planifier ton affaire, un lieu, un moment, une personne ciblée, c'est des Autochtones dans son cas. Et lui, ben, il plaide qu'il n'était pas conscient, puis c'est un grand malade, puis
Ouais.
qu'il n'est pas ci, puis qu'il n'est pas ça. Mais
Il
ça m'a fait
plaide.
penser un peu au cas de Carl Giroir, là, le
Ouais.
soir de l'Halloween, là.
Ouais.
Qui arrive à Québec, tu te souviens-tu, Carl Giroir, là,
Oui, je m'en
qui s'est
souviens
promené
très
avec
bien.
son sabre, son épée,
Mais cet
je pense qu'il a
homme-là,
tué deux personnes.
parle d'aliénation mentale. Il dit souffrir de schizophrénie. Il dit entendre des voix, dont celle de Dieu. Il entend des voix d'anges aussi, ainsi que du Saint-Esprit, et peut-être celle du diable. Il y a énormément de gens qui parleraient dans sa tête à cet individu-là, mais encore là, comment le prouver, tu sais, que
Ouais,
c'est vrai
c'est
tout ça?
ça.
Ça va être effectivement une problématique. Puis Carl Giroir, tu sais, il y avait définitivement un problème entre les deux oreilles, à savoir qu'est-ce qu'il y avait exactement, on ne saura jamais. La bonne nouvelle, c'est qu'il est en prison, puis il ne reverra pas le jour avant un bout, là.
Ouais, puis tu sais, il faut que tu prouves que non seulement que tu entends César et ses Romains dans tes rêves, là, ou que tu vois le petit Jésus se promener en train dans ta maison, mais il faut que tu prouves qu'au moment précis où les gestes ont été commis, t'étais ce qu'on appelle en anglais disease of the mind, c'est-à-dire que t'étais complètement incapable de comprendre la nature, la portée, la gravité de tes gestes, c'est-à-dire de tuer quelqu'un. Alors, il peut avoir été psychotique le lundi, mais avoir tué le mardi. Ça ne veut pas dire qu'il est psychotique le mardi aussi. Donc, il faut que tu prouves aussi cette espèce de permanence ou de durabilité de la pathologie qui t'empêche de distinguer le bien du mal tout le temps, incluant les moments où tu as commis ces meurtres-là. Mais tu sais, Giroir, lui, il avait dit, moi, je suis arrivé à Québec à l'Halloween avec mon couteau. Je me suis habillé en je sais pas quoi, avec les grandes capes, là. Je me promenais, puis je fais du monde. Mais plus tu as organisé puis orchestré ton crime, tu t'es déplacé, tu as pris ton auto, tu as trouvé
Ouais.
un parking, tu es parqué régulièrement, on le voyait ces caméras de sécurité qui se promenaient dans la rue, il était pas chambranlant, il était pas, il avait l'air d'un gars en pleine possession de ses moyens, il a identifié les victimes, il en a blessé quelques-unes, il en a tué deux. Alors à un moment donné, ça devient comme impossible de penser qu'on a une non-responsabilité criminelle pour une personne qui est capable d'organiser, de planifier de façon aussi structurée, aussi précise, tout le contexte qui a mené à l'assassinat de ces deux personnes-là. Alors lui, là, Sibinski, à Manitoba, il a tué quatre Autochtones à quatre moments différents, et je serais très surpris que la non-responsabilité criminelle soit acceptée. Puis si jamais ça passait, je pense que la Couronne va aller en appel de ça parce qu'il faut vraiment débattre ce cas-là, parce que ça risque de faire jurisprudence dans l'ensemble du Canada, sachant bien que le droit criminel, c'est canadien, hein. Ça relève de l'ensemble des provinces
Ouais.
et un jugement de la Cour d'appel ou de la Cour du banc de la Reine du Manitoba peut avoir un impact aussi au Québec et en Ontario et un peu partout au Canada. Alors, c'est à suivre, mais c'est une cause majeure actuellement qui passionne et qui occupe beaucoup les journalistes au Manitoba. Puis c'est à suivre. Je pense que c'est ces jours-ci qu'on devrait avoir le dénouement.
Ah, puis ce qui est ahurissant aussi parfois, c'est quand ces gens-là vont sortir de prison, vont devoir faire des demandes, puis là, ça va être analysé par des commissaires. Et là, les commissaires vont émettre des commentaires comme est-ce que cet homme-là est dangereux? Oui ou non? Est-ce qu'il représente un niveau de dangerosité pour la population en général? Est-ce que c'est un niveau de dangerosité acceptable ou pas? Puis à quel degré le niveau de dangerosité? C'est particulier quand on les remet dans la circulation, ces gens-là. Parfois, il y a un niveau de danger acceptable, puis on les remet quand même dans la population en disant, oh oui, il est dangereux, mais c'est acceptable, tu sais. Mais ces gens-là ont fait des choses atroces à des êtres humains.
Oui, puis c'est ce qui cause beaucoup, beaucoup de frustration chez les victimes parce que le gars, il est libéré. On ne parle pas d'un acquittement, on parle d'une libération pour non-responsabilité criminelle. Il a tué, je ne sais pas combien de personnes, comme dans ce cas-ci, quatre personnes. Et après ça, il s'en va plaider dans la non-responsabilité criminelle, donc il est libéré. Il s'en va non pas en pénitencier parce qu'à 25 ans, un meurtre prémédité, il ferait 25 ans de pénitencier ferme. Ça ne va pas au pénitencier, ça va à Robert-Giffard ou à Pinel, dans un centre psychiatrique. Puis là, au bout de 6 mois, 1 an, ah, il va mieux. Puis là, il veut sortir. Il ne sortirait pas de prison parce que c'est 25 ans ferme. Mais là, c'est le docteur, puis le psychiatre. Puis là, ah, le psychiatre dit, ah, savez-vous, on a essayé un traitement, puis on a essayé une petite molécule. Là. Puis là, oups, il n'est pas pire, ça va très bien, puis il est capable. Fait que là, on va lui donner des permissions de sortir. Puis éventuellement, au bout d'1 an, 1 an et demi, ce gars-là peut être libre comme l'air. Et c'est ce qui va scandaliser beaucoup de victimes. C'est pour ça que la non-responsabilité criminelle, il faut être, à mon avis, extrêmement exigeant en termes de preuves avant d'accepter ça, parce que je me souviens, avant le procès de Guy Turcotte, dans cette époque-là, Guy Turcotte qui a tué ses enfants, je pense, en 2009, et les jugements, c'était au début des années 2010, et à ce moment-là, on avait au Québec, statistiquement, la moitié des cas de non-responsabilité criminelle au Canada. On était open, comme on dirait en italien. On était open sur la non-responsabilité,
Ouais.
mais j'ai l'impression qu'avec l'affaire Guy Turcotte, on a refroidi un petit peu les juges, les jurés sont devenus beaucoup plus exigeants, beaucoup plus tatillons sur la question de la non-responsabilité criminelle. Ouais, êtes-vous bien sûr qu'il est si malade que ça? Puis il me semble qu'il a un comportement bizarre pour un malade mental sévère. Il sait pas ce qu'il fait, il est quand même pas pire, il chauffe son char, il se parque, il a un chemin, il a un plan, etc. Alors, on a vu depuis ce temps-là, Turcotte, finalement, qui a été rejugé et qui a été condamné pour homicide, je pense, un meurtre au deuxième degré, puis qui est en prison aujourd'hui. On a eu aussi M. Proulx, je pense, qui avait été accusé d'attaché politique du ministre Béchard à Rivière-Ouelle, je ne sais pas si tu te souviens de
Francis
ça.
Proulx.
Francis Proulx, lui, il disait, ah, moi, je prends de l'Effexor. Écoute bien, il y a du monde qui prend de l'Effexor. C'est pas une grosse, grosse, grosse médication.
Ouais.
Je prends de l'Effexor, donc je n'étais pas conscient de ce que je faisais. Ça n'a pas passé. Il a fait rire de lui.
C'est
Il est en prison pour 25 ans.
Francis Proulx qui
Et
avait
Giroir, c'est
tué.
l'histoire d'Halloween. Alors, les cas s'accumulent où ça n'a pas marché et que le jury s'est tenu, puis que le gars, il est dans le dedans, puis je suis bien content.
Non, non,
Et ça veut dire qu'au Québec, il y a eu comme une espèce de virage depuis
Ouais.
l'affaire Turcotte. On sent là, que les tribunaux, les décideurs sont beaucoup plus exigeants face à ce plaidoyer de défense-là.
Là, je vais de mémoire, mais Francis Proulx, il avait tué Nancy Michaud.
C'est ça.
C'était le nom de l'attaché de presse. Puis,
Ah oui, outrage à un cadavre, puis il garde
ouais.
la grosse
Il
affaire, puis
avait
regarde, je prenais de
caché.
l'Effexor. Hey,
Il
le
l'avait
joke, hein?
tué, il l'avait caché dans un sous-sol de maison abandonnée. Puis le lendemain, ben, il allait violer le corps. Puis le surlendemain, il allait violer le corps. Histoire complètement atroce,
Ouais. Mais lui, il plaidait qu'il prenait de l'Effexor et qu'il
là. Ouais.
n'était pas conscient de ce qu'il faisait.
Mais un jour, ces gens-là
Et
vont
puis.
revoir la lumière du jour. Moi, c'est ce qui me tue à chaque fois quand j'entends parler de ces histoires-là. Puis je pense à la famille de Mme Michaud qui vont peut-être un jour recroiser cet individu-là dans la société après 25 ans. C'est atroce.
Ouais, c'est ça. Exactement.
Maître Bellemare, je souhaite de passer une agréable soirée. Merci beaucoup de vous être rendu disponible en ce lundi. Vous avez des gros horaires. Puis en plus, vous n'avez pas de journée de congé. Dimanche, hier, vous travaillez. Là, vous êtes avec nous en soir. C'est
Oui,
ça, hein,
mais quand
quand.
même, il y a la Saint-Jean, il y a 2 grosses fins de semaine de 3 jours qui s'en
C'est
viennent,
ça.
ça va te faire du bien.
Mais c'est
On va peut-être
ça.
moins se parler à ce moment-là, mais il reste que on va avoir un été.
Mais
On n'a
c'est.
pas le choix, on s'en va vers ça.
Mais c'est ça, Maître Bellemare. Vous êtes en début de carrière. Fait qu'il faut travailler fort, là.
C'est ça,
En
faut que je
début
me
de
fasse un
carrière.
nom.
Ouais, exact. Puis juste vous dire, c'est la dernière de Marceau Soir avec Maître Marc Bellemare parce qu'on prend congé tout l'été à partir de la semaine prochaine.
Bon, on va se reprendre, on va être là l'automne, n'inquiète-toi
Ah,
pas.
ouais, inquiétez-vous pas, je trouverai un moyen de vous achaler cet été pareil.
Ouais, c'est ça, c'était des sujets intéressants. Ça me fait plaisir de fournir encore mon opinion, quoique des fois, on a le droit de pas être d'accord.
Merci, Maître Bellemare. Passez une belle soirée.
Salut, bye-bye.
Pour des dossiers de SAC, d'IVAC, de CNESST, Maître Bellemare est disponible chez bellemareavocat.ca. Merci beaucoup. Je vous souhaite de passer une agréable soirée. On se reparle demain, 11 h, pour ce qui est de Marceau le midi.